From the Institute for Research on Public Policy, this is the In Their Words stream of the Policy Options podcast. I'm Anna Drake. I'm an assistant professor in political science at the University of Waterloo and the author of Activism, Inclusion, and the Challenges of Deliberative Democracy. Today, I will be reading my piece that I wrote for Policy Options magazine at the IRPP that is titled, So-Called Freedom Convoy is a Symptom of a Deeply Unequal Society.
Cet article sera également lu en français. Si vous aimerez l'attendre, passez la minute 7:45.
How Ottawa police treat white protesters compared to others, including Black and Indigenous people, reveals an entrenched Canadian double standard. The so-called Freedom Convoy descended on Ottawa with a stated intent of remaining until the federal government revokes COVID-19 measures and mandates, most of which are the responsibility of the provinces. Convoy members set up near Parliament Hill and in the surrounding downtown area, beginning a loud and disruptive occupation that, as of now, has no end in sight. The vast majority of Canadians disagree with the stated aims and methods of the convoy, and much of the conversation focuses on whether or not it has a right to be there. From a standpoint of recognizing freedom of association and expression as fundamental components of a free and healthy democratic society, this makes sense. However, this framing misses the point. Lost in the division between people supporting their right to protest and those who argue the occupation ought not to have been allowed to set up in the first place are several harder questions, ones we need to answer if we are to understand what makes the so-called Freedom Convoy a danger to a truly free and democratic society. What's happening in Ottawa is not a question of whether society supports protest. Fundamentally, it's a question of how seriously we take democratic equality. The people who have set up in Ottawa are occupiers. Comparing them to other protesters fails to understand the deep-rooted inequality that underpins both the occupation and many of our institutional responses to it. Indeed, it is institutional failure after institutional failure that we ought to focus on. We need to hold these structures to account and turn our attention to the people our institutions fail. It is noteworthy that the convoy began its journey to Ottawa on the International Holocaust Remembrance Day, and that the occupation began in earnest on the fifth anniversary of the Quebec City mosque attack, where an anti-Islam shooter murdered 6 men and left others seriously injured. The Freedom Convoy rolled in carrying swastikas, Confederate flags, and other hate-filled paraphernalia, all of which were proudly displayed upon arrival. For those who had been paying attention to the white supremacist and far-right racist affiliations of convoy organizers and active opponents of COVID-19 measures, none of this was unexpected. Canada's narrative is one of inclusion and belonging, but it is a framing at odds with the structural racism amplified by our response to the pandemic. When it comes to denunciations of the occupation, it is the lack of respect for notable Canadian monuments that seems to resonate most with a majority of white Canadians. It is here we see criticisms of the occupiers going too far, as the media reported on occupiers defacing the Terry Fox statue with an occupier slogan and urinating on the National War Memorial. Let's set aside for a moment the irony of anti-vaxxers trying to claim as a symbol Fox, a supporter of medical science if there ever was one. That the general unruliness of constant horn-honking and public urination and defecation draws the most outrage speaks volumes about the ease with which we accept unequal treatment within our society. There is a double standard in the way police are treating the occupiers, but it is a double standard that is well entrenched in our society. Much of the well-deserved criticism against the occupation highlights a sharp contrast between the occupiers' reception and the ways police forces all over Canada treat Black and Indigenous people, who are violently policed for existing in public space, let alone protesting. As we watch the Ottawa police throw up their hands and claim there's nothing they can do for fear of escalating the situation, we have countless examples of swift and violent responses to peaceful Black and Indigenous protests. Convoy occupiers have targeted LGBTQ2S residents, threatened people for wearing masks, uttered death threats and made it unsafe for residents to leave their homes. Ottawa is experiencing school closures, canceled vaccination clinics, and threats to other essential services, providers, and recipients of this care. This includes attacks against employees at Shepherds of Good Hope, which offers support to homeless and vulnerable adults, and the Cornerstone Housing for Women, an emergency women's shelter that saw residents hospitalized as a result of the ongoing occupation. We see occupiers stockpiling gas and erecting makeshift structures outside Parliament as the Ottawa police do nothing, in action with a price tag of $800,000 per day. In contrast, this summer we saw the Toronto police spend approximately $2 million to violently clear encampments of homeless occupants and arrest peaceful protesters. The occupation underscores our institutional failure. However, this goes far beyond an inability, really a refusal, to eject from our capital an unruly and violent tantrum-throwing group of white supremacists with a complete lack of understanding of what it means to live in a society with other humans. Our failure is to recognize that in many ways this occupation exists because, as with other tantrum-throwing groups, our society has fostered a deep sense of white entitlement, such that any restrictions on daily life, even the simplest act such as wearing a mask to save other people's lives, is wrongly interpreted as oppression. We have seen these institutional failures amplified by the Ottawa police in their inaction this past week, but they are ever present in the broader racist, colonial, and homophobic record of policing across the country. When we acknowledge that our institutions were not designed for everyone, it should be no surprise to see a major institution give a pass to vocal supporters of white supremacy. We see these institutional failures in the responses from our elected officials, who are engaging in finger-pointing and narrow denunciations of the most widely objectionable parts of the Ottawa occupation, rather than, yet again, failing to take structural racism and the protection of the most vulnerable in our community seriously. After a notable silence on the occupation, Ontario Premier Doug Ford went on record to say he is extremely disturbed by the convoy's desecration of monuments and displays of the swastika. A few days later, the province's chief medical officer of health called for Ontario to reassess the value of vaccine mandates. The premier, who was originally against vaccine passports, had already said he has no plans to expand their reach to third doses. Together, the Ontario government ignores the medical and scientific consensus and lends credibility to the anti-vaccine, anti-science demands of a vocal and harmful minority hell-bent on getting their own way at the direct expense of everyone else. This is what the state of our democracy looks like in Canada. The question is, now that more people are aware and outraged, will anything of substance change?
Les camions pèsent moins lourd que la couleur. La façon dont la police d'Ottawa traite les manifestants montre un double standard envers les Noirs et les Autochtones, bien enracinés au Canada. Le soi-disant convoi de la liberté est arrivé à Ottawa avec l'intention déclarée de rester jusqu'à ce que le gouvernement fédéral révoque l'ensemble des restrictions liées à la COVID-19, même si la plupart d'entre elles relèvent des provinces. Les participants au convoi se sont installés près de la colline du Parlement et autour, en plein centre-ville, déclenchant une occupation bruyante et dérangeante pour laquelle on ne voit pas de fin pour l'instant. La grande majorité des Canadiens sont en désaccord avec les méthodes et les objectifs poursuivis par les organisateurs du convoi. Et une grande partie du débat porte sur la question à savoir si les manifestants ont ou non le droit d'être là. Du point de vue de la reconnaissance de la liberté d'association et d'expression en tant qu'éléments fondamentaux d'une société démocratique libre et saine, c'est évidemment pertinent. Dans le cas présent, c'est néanmoins passé à côté de l'essentiel. Le débat entre ceux qui soutiennent le droit des camionneurs de manifester et ceux qui plaident que l'occupation n'aurait simplement pas dû être autorisée cache des questions plus difficiles. Nous devons pourtant y répondre si nous voulons comprendre pourquoi le soi-disant « convoi de la liberté » représente un danger pour une société véritablement libre et démocratique. Parce que la question que pose le siège d'Ottawa n'est pas de savoir si notre société permet les manifestations. Fondamentalement, il s'agit plutôt de savoir à quel point nous prenons au sérieux l'égalité démocratique. Ceux qui se sont installés à Ottawa sont des occupants. Les mettre sur un pied d'égalité avec d'autres manifestants, d'autres mouvements ne permet pas de comprendre l'inégalité profondément enracinée dans nos institutions, qui sous-tend à la fois l'occupation et le bon nombre de réponses à celle-ci. Ce sont sur ces échecs institutionnels répétés que nous devons nous concentrer. Nous devons demander des comptes à ces institutions et porter notre attention sur ceux qu'elles laissent tomber. Il est notable que le convoi ait commencé son voyage vers Ottawa lors de la journée internationale de commémoration de l'Holocauste et que l'occupation a vraiment commencé le jour du 5e anniversaire de l'attentat de Québec, quand un tireur anti-musulman est entré dans une mosquée, tuant 6 hommes et en blessant d'autres gravement. Le convoi de la liberté est débarqué dans la capitale fédérale avec des croix gammées, des drapeaux confédérés, une panoplie d'accessoires porteurs de haine, qui ont tous été fièrement affichés dès leur arrivée en ville. Pour ceux qui avaient prêté attention aux affiliations suprémacistes et racistes d'extrême droite des organisateurs du convoi et de certains opposants très actifs aux restrictions sanitaires, rien de tout cela n'était surprenant. Le récit national canadien fait la part belle à l'inclusion et au sens d'appartenance à la communauté. Mais c'est un cadre narratif qui est contredit par un racisme structurel que nos réponses à la pandémie ont amplifié. En ce qui a trait aux dénonciations face à l'occupation, c'est le manque de respect pour certains symboles canadiens qui semble résonner le plus chez une majorité de Canadiens, blancs. Aux yeux de nombre de citoyens, lorsque les médias montrent des occupants habiller la statue de Terry Fox avec leurs symboles et leurs slogans ou uriner sur le monument commémoratif de guerre du Canada, une ligne est franchie. Oublions un instant l'ironie des anti-vaccins essayant de revendiquer Terry Fox, un partisan de la science médicale s'il n'en est un. Que l'indiscipline générale des klaxons constants et de la défécation en public soit ce qui suscite le plus d'indignation en dit long sur la facilité avec laquelle nous acceptons un traitement inégal au sein de notre société. Il y a un double standard dans la façon dont la police traite les occupants, et c'est un double standard bien ancré au pays. Une grande partie des critiques, celle-ci bien méritée, contre l'occupation souligne le contraste frappant entre l'accueil réservé à ceux qui occupent Ottawa et la façon dont les forces de police partout au pays traitent les Noirs et les Autochtones, qui s'attirent violence et surveillance par leur simple présence dans l'espace public. Sans parler du traitement qu'il leur est réservé quand ils décident de manifester. Alors que nous regardons la police d'Ottawa baisser les bras et affirmer qu'elle ne peut rien faire de peur d'aggraver la situation, nous avons d'innombrables exemples de réponses rapides et violentes à des manifestations pacifiques auxquelles ont pris part des Noirs ou des Autochtones. Les occupants du Convoi de la Liberté ont ciblé des résidents LGBTQ2S, menacé des personnes portant des masques, proféré des menaces de mort et rendre dangereux le simple fait de quitter son domicile. Ottawa subit présentement des fermetures d'écoles, l'annulation de cliniques de vaccination et des menaces contre d'autres services essentiels, qu'il s'agisse de fournisseurs ou de bénéficiaires de ces soins. Cela inclut des attaques contre des employés de Berger de l'Espoir, un organisme de soutien aux adultes sans-abri et vulnérables, et des contre-coups au Pilier Logement pour Femmes, un refuge d'urgence dont des résidentes ont dû être hospitalisées en raison de l'occupation en cours. Nous voyons des occupants stocker de l'essence et construire des bâtiments de fortune à l'extérieur du Parlement alors que la police d'Ottawa ne fait rien. Cette inaction des forces policières vient néanmoins avec une facture de 800 000 $ par jour. Pourtant, cet été, nous avons vu la police de Toronto dépenser environ 2 millions de $ pour vider violemment des campements de sans-abri et arrêter des manifestants pacifiques. L'occupation souligne notre échec institutionnel. Il ne s'agit pas d'une incapacité, mais bien d'un refus d'éjecter de notre capitale un groupe indiscipliné et violent de suprémacistes blancs qui ne comprennent absolument pas ce que signifie vivre dans une société avec d'autres êtres humains. Notre échec est de reconnaître qu'à bien des égards, cette occupation existe parce que, comme pour d'autres groupes qui carburent à la colère et au ressentiment, notre société a investi les blancs du sentiment profondément ancré que leurs droits sont inattaquables. De sorte que toute restriction à la vie quotidienne, même la contrainte la plus banale, comme celle de devoir porter un masque pour sauver la vie d'autres personnes, est interprétée comme une oppression. Nous avons vu ces échecs institutionnels amplifiés par la police d'Ottawa dans son inaction la semaine dernière. Mais ils sont toujours présents dans le bilan raciste, colonial et homophobe des services de police à travers le pays. Lorsque nous reconnaissons que nos institutions n'ont pas été conçues pour tout le monde, on ne devrait pas s'étonner de voir ensuite une grande institution comme la police donner un laissez-passer à d'ardents partisans de la suprématie blanche. Nous voyons encore ces échecs institutionnels dans les réponses de nos élus, dont les dénonciations pointent de façon très spécifique les éléments les plus répréhensibles de l'occupation d'Ottawa, plutôt que, encore une fois, de prendre au sérieux le racisme structurel et la protection des plus vulnérables dans notre communauté. Après un silence remarquable à propos du siège d'Ottawa, le premier ministre de l'Ontario, Doug Ford, a déclaré publiquement qu'il était extrêmement troublé par la profanation de monuments et les croix gammées aperçues au sein du convoi. Quelques jours plus tard, le principal conseiller médical du gouvernement, a appelé l'Ontario à réévaluer le bien fondé des passeports vaccinaux. Avec ce genre de déclaration, qui ignore le consensus scientifique, le gouvernement ontarien se trouve à endosser les revendications anti-vaccins et anti-sciences d'une minorité bruyante et nuisible déterminée à obtenir tout ce qu'elle veut, même si c'est aux dépens de tous les autres. Voilà à quoi ressemble l'état de notre démocratie au Canada. La question est, maintenant que plus de gens en sont conscients et indignés, est-ce que quelque chose de substantiel va changer?
Thank you for listening to this week's episode of In Their Words. If you've liked this episode, please let us know on social media under the handle IRPP. And if you would like to read this piece, you can do so via the link in our description or at policyoptions.irpp.org. You'll find this in a bunch of other great articles. Thanks for listening.